VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. À la une ce soir. Rencontre au sommet à Helsinki entre Donald Trump et Vladimir Poutine. L'ingérence russe dans l'élection américaine de 2016 est au centre des attentions. En Afrique, réouverture de l'ambassade d'Érythrée à Addis Abeba après 20 ans de rupture des relations diplomatiques. Et puis la crise d'austérité et répression au Tchad, selon le dernier rapport d'Amnesty International.
Donc vous voyez, c'est un peu comme un effet boule de neige. Les gens ne sont pas contents parce qu'il y a les mesures d'austérité. Ils manifestent leur mécontentement.
En RDC, 16 mois après son décès, les funérailles d'Étienne Tshisekedi suscitent toujours des interrogations.
Il y a un problème, il est vrai, de date, ça a pris de temps par rapport à la date qui a été avancée, les 30. Mais ce qui est certain est que le rapatriement du corps du fait président national de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, aura bel et bien lié.
Et l'équipe de France, championne du monde de football, est de retour à Paris. On en parlera bien évidemment dans 10 minutes dans le journal des sports. Mais d'abord, le journal. Sommet Donald Trump, Vladimir Poutine à Helsinki. Après des pourparlers constructifs entre les deux chefs d'État, le président américain a qualifié de désastre l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine, assurant en avoir parlé directement avec son homologue russe Vladimir Poutine lors de leur tête-à-tête lundi. Nous faisons le point avec John Linden.
Le président russe Vladimir Poutine a jugé ses pourparlers avec son homologue américain très réussis et très utiles, en estimant qu'ils avaient commencé à mieux se comprendre. Donald Trump a lui aussi déclaré avoir eu un dialogue direct, ouvert et très productif. Le locataire de la Maison-Blanche et l'homme fort du Kremlin se sont retrouvés en début d'après-midi dans le palais présidentiel au cœur de la capitale finlandaise, qui a une longue tradition d'accueil de sommets Est-Ouest. Après plus de 90 minutes d'entretien et un déjeuner de travail, les deux hommes ont fait face à la presse. Très vite, les questions des journalistes se sont focalisées sur l'ingérence russe lors de la présidentielle de 2016. Donald Trump a dit avoir posé la question directement à Vladimir Poutine.
There was nobody to collude with. Il n'y avait personne avec qui conspirer. Il n'y a pas eu de conspiration avec la campagne. À chaque fois qu'on entendait 14 ou 12 inculpations, cela n'a rien à voir avec franchement. Et en plus, ils disent, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec la campagne. On a mené une brillante campagne, c'est pour cela que je suis président. Merci.
A réitérer que la Russie ne s'est jamais intégrée dans les élections américaines, en précisant que M. Trump avait évoqué ce sujet qui fait l'objet d'une enquête aux États-Unis.
Une fois de plus, le président Trump a mentionné la soi-disant interférence de la Russie durant les élections de 2016 et j'ai dû réitérer ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, y compris durant nos rencontres. La Russie n'a jamais interféré dans les affaires intérieures des États-Unis.
Monsieur Poutine a proposé à Donald Trump d'interroger ses agents. L'enquête effectuée à Washington sur l'ingérence russe en faveur de Trump dans la campagne présidentielle de 2016 a été relancée de façon spectaculaire à 3 jours du sommet par l'inculpation de 12 agents du renseignement russe accusés d'avoir piraté les ordinateurs du Parti démocrate.
Suite à ce sommet, le chef de file des Républicains au Congrès américain, Paul Ryan, a appelé Donald Trump à réaliser que la Russie n'est pas notre allié. Le chef de l'opposition démocrate au Sénat américain, Chuck Schumer, a accusé Donald Trump de s'être montré irréfléchi, dangereux et faible, ce sont ses termes, face à son homologue russe, Vladimir Poutine. Retour en Afrique, en Côte d'Ivoire, le parti unifié voulu par le président Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle de 2020 doit être officiellement lancé aujourd'hui à Abidjan. Charles Kofi Dibi, Patrick Achi et Siandou Fofana sont présents en qualité d'observateurs pour le compte du président du PDCI, Henri Konan Bédier. Récemment, un nouveau gouvernement a été nommé avec des personnalités toutes favorables à ce parti unifié. Toujours à Abidjan, la commission électorale indépendante annonce une liste électorale provisoire validée et disponible de plus de 6,5 millions d'électeurs. Les syndicats des travailleurs et les organisations de la société civile guinéenne appellent à une marche demain à Conakry. Pour la première fois, les deux groupes manifestent ensemble contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Le match programmé ce lundi a été annulé par le gouverneur de Conakry. Les organisateurs ont porté plainte contre lui pour abus de pouvoir. L'affaire sera jugée cette semaine. Réouverture de l'ambassade érythréenne à Addis Abeba ce lundi, après 20 ans de rupture des relations diplomatiques avec le voisin éthiopien. C'est le président Isaias Afewerki lui-même qui a réouvert l'ambassade. Abdourahman Dia.
La réouverture de cette ambassade à Addis Abeba était le dernier geste symbolique de 3 jours de visite officielle du chef de l'État érythréen en Éthiopie, destiné à consolider la fin des hostilités entre les deux pays. Cette visite intervient quelques jours à peine après la signature, le 9 juillet à Asmara, d'une déclaration conjointe de paix et de coopération mettant fin à 2 décennies d'état de guerre entre les deux pays. C'était lors d'une visite historique du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Les images de la télévision publique éthiopienne EBC montrent Isaias Afewerki hissant le drapeau érythréen et acceptant des mains de M. Abiy les clés du bâtiment situé dans le centre de la capitale éthiopienne et rempli de vieux meubles couverts de poussière auxquels personne n'a apparemment touché depuis des années. Lors de ces 3 jours, M. Isaias a aussi visité un important parc industriel et pris part à un dîner et un concert auquel ont assisté des milliers d'Éthiopiens. L'Éthiopie et l'Érythrée avaient expulsé leurs diplomates respectifs au début de la guerre qui les a opposés entre 1998 et 2000, notamment en raison d'un désaccord sur leurs frontières communes et qui a fait quelque 80 000 morts selon les estimations.
Au Nigeria, des dizaines de soldats ont été tués dans une attaque de Boko Haram contre une importante base militaire ce week-end dans le nord-est du pays. Nous avons un petit peu plus de détails avec Raissa Girondin.
Les insurgés ont envahi ce week-end une base militaire forte de plus de 700 soldats dans l'état de Yobe au lendemain d'une autre attaque visant des soldats dans l'état voisin du Borno. Aucun bilan officiel n'a été communiqué par les autorités, mais une source militaire a affirmé à l'AFP avoir jusque-là perdu 31 soldats et que 24 soldats blessés ont été évacués à l'hôpital pour être soignés. L'attaque a été attribuée par des miliciens à la faction Abu Musab al-Barnawi, affiliée au groupe État islamique qui cible notamment les forces nigérianes. Parallèlement, des opérations de recherche continuaient dans l'état du Borno pour retrouver 23 soldats portés disparus depuis une embuscade tendue vendredi dernier. Le porte-parole de l'armée a toutefois démenti que des soldats manquaient à l'appel, assurant que cette attaque avait été repoussée avec succès. Le président Muhammadu Buhari a répété la semaine dernière que l'insurrection était terminée et que le nord-est du Nigeria était maintenant dans une phase de stabilisation post-conflit.
Toujours au Nigeria, des organisations de la société civile ont accusé les principaux partis politiques d'avoir acheté des voix lors de l'élection très disputée du gouverneur de l'État d'Ekiti. Kayode Fayemi, ancien ministre et candidat de l'APC, le parti au pouvoir, a remporté ce scrutin. À 6 mois de la présidentielle, cette élection était considérée comme ayant valeur de test pour la popularité du président Muhammadu Buhari, qui espère briguer un second mandat lors de la prochaine présidentielle prévue en février 2019. Au Mali, une dizaine de civils ont été tués hier à Injagalan, à l'ouest de Ménaka. D'après plusieurs témoignages, des bandits armés ont ouvert le feu sur des civils Touareg. 8 migrants, dont 6 enfants, morts asphyxiés dans un camion près de Zouara, en Libye, dans lequel se trouvaient 100 de migrants. Plusieurs personnes en détresse respiratoire ont été admises aux urgences. Selon les autorités, les migrants, originaires du Bangladesh, du Pakistan et de pays africains et arabes, ont été laissés là par des passeurs en attendant leur départ par bateau pour les côtes italiennes. L'Afrique du Sud commémore le 100e anniversaire de la naissance de son premier président noir, Nelson Mandela. Sa dernière épouse, Gracia Machel, a affirmé que le pays a juste débuté sa longue marche vers la liberté. liberté pour laquelle Nelson Mandela s'est battu toute sa vie, a-t-elle ajouté. Décédé en 2013, Nelson Mandela a combattu pendant des décennies le régime raciste blanc de l'apartheid et a permis d'en tourner la page avec son élection à la présidence sud-africaine en 1994. Et puis toujours en Afrique du Sud, 6 mineurs sont morts dans l'incendie d'une mine de cuivre dans la province du Limpopo.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, après deux journées dans la rade de Pozzallo en Sicile, les quelques 450 migrants qui se trouvaient à bord de deux navires militaires dans les eaux italiennes ont tous débarqué. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Jacques Aristide.
En Guinée, Conakry, la capitale, était quasiment à l'arrêt ce lundi, où l'appel à observer une nouvelle journée ville morte pour protester contre l'augmentation de 25% du prix du carburant à la pompe a été largement suivi. Les stations-service et les commerces étaient également en grande majorité fermés. Le gouvernement justifie l'augmentation du carburant, entrée en vigueur le 1er juillet dernier, par la hausse des cours mondiaux du pétrole. Il fait valoir que le maintien du prix de 8 000 francs guinéens a coûté au budget de l'État plus de 80 millions de dollars au cours des 9 derniers mois et alimente un trafic vers des pays voisins où le carburant est plus cher. Une nouvelle rencontre entre le médiateur de la République, l'ancien Premier ministre Mohamed Saïd Fofana et des représentants de la société civile était prévue ce lundi. Augmentation de 6,3% des réserves de change de l'Afrique l'an dernier, c'est ce qui ressort du rapport 2018 sur le commerce africain publié par l'Afrexim Bank, la banque africaine d'import-export. En clair, le stock des réserves de change du continent était à 421,53 milliards de dollars en 2017 contre 396,3 milliards en 2016. La raison, la hausse constante des cours des matières premières qui ont par ricochet conduit à un accroissement des recettes d'exportation.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Clay, bonsoir à tous.
Les Bleus, champions du monde, ont atterri à Paris.
Les joueurs de l'équipe de France ont atterri à l'aéroport de Roissy peu avant 15h temps universel. Au lendemain de leur victoire en finale de la Coupe du Monde, ils se sont ensuite rendus sur les Champs-Élysées pour y célébrer leur titre avec des dizaines de milliers de personnes qui les attendaient avant d'être reçus par le président Emmanuel Macron à l'Élysée. Écoutons l'un des défenseurs des Bleus qui s'est exprimé juste avant le départ de l'aéroport de Moscou, Raphaël Varane. Raphaël Varane.
Zagreb a aussi accueilli en héros ses vice-champions.
Levez les mains, Croissy, ou encore Jouma Croissy, quand je te vois, mon cœur s'enflamme, a chanté la foule, drapeau au vent, maillot à damier rouge et blanc au dos. Plus de 100 000 personnes se sont réunies dans le centre de la capitale croate pour célébrer leur vice-champion héroïque en Russie. De l'aéroport, les joueurs se sont rendus au centre-ville dans un bus, se frayant difficilement un passage dans une foule intense.
Pendant ce temps, en Italie, les supporters turinois acclamaient Cristiano Ronaldo.
Des centaines de fans ont accueilli un Cristiano Ronaldo plutôt réservé à Turin, où la superstar portugaise a signé son contrat de 4 ans avec la Juventus. Ronaldo, ramène-nous la Ligue des champions, ont scandé des fans avant la visite médicale de l'attaquant vedette. Ce nouveau contrat devrait lui rapporter quelque 30 millions d'euros par saison. Au total, le transfert devrait coûter 350 millions d'euros à la vieille dame.
Le Mondial 2018 à peine terminé, la Ligue africaine des champions reprend ses droits.
Huit rencontres sont au programme de la troisième journée demain, à suivre notamment les chocs TP Mazembe MC Alger, Mbabane Étoile du Sahel, Al Ahly Township Rollers et Oria Wydad Casablanca. Le WAC est prêt, d'après l'un de ses défenseurs, Ibrahim Komara.
Ça attend un gros match et sachant que l'équipe de Rio est une bonne équipe, voilà, on est venu pour arracher un bon résultat, on s'est bien préparé. Je pense qu'on va s'en sortir avec un très bon résultat, Inch'Allah.
Ibrahim Komara. Dans les autres rencontres, l'Espérance de Tunis reçoit Kampala City Council. L'AS Togo Port fera face à Mamelodi Sundowns et Zesco United jouera le 1er 2 agosto.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Le président Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine se sont rencontrés aujourd'hui à Helsinki pour leur premier sommet bilatéral. Les deux chefs d'État ont plaidé en faveur d'une amélioration des relations entre les deux pays, malgré l'enquête sur l'ingérence russe présumée dans l'élection américaine de 2016. Le président Poutine a une nouvelle fois nié toute implication de son pays. Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint ici à Washington l'analyste politique Lorenzo Mori.
Beaucoup de monde, y compris quelques républicains, ont demandé l'annulation de ces rencontres suite à la montée d'évidence et même les chefs d'incompréhension contre les 12 espions ou des gens dits espions venant de la Russie et qui ont ingéré dans notre dernière élection présidentielle.
Oui, mais justement, tout à l'heure, lors de la conférence de presse commune, le président Poutine a encore une fois nié toute ingérence russe.
Il n'y avait pas de doute qu'il ne nierait. Il n'y avait pas de doute non plus qu'il ment, parce que l'évidence est bien trop forte. On ne sait seulement pas si des gens liés avec Trump étaient liés aussi avec cette ingérence, mais on a tant d'évidence que les Russes ont fait tant d'efforts à partir de publicité pendant la campagne, à partir de vols, des courriels du Parti démocrate, y compris une évidence importante de l'ingérence directe dans les scrutins de certains États pendant l'élection présidentielle.
Mais est-ce qu'on peut reprocher au président Trump d'essayer de réparer les relations entre les deux pays? Il n'est pas le premier président américain à rencontrer un chef d'État russe.
Oui, mais on est toujours ouvert à l'idée de rapprochement entre pays, mais par contre, président Obama, après l'ingérence de la Russie en Syrie et ailleurs, a annulé la réunion proposée avec lui. Il faut au même temps qu'on soit ouverte à un rapport avec un autre pays, qu'on exige un certain respect pour ses propres démarches démocratiques, un certain respect pour les processus internes d'un pays. On ne peut jamais accepter qu'un gouvernement étranger agisse directement dans notre politique.
Mais le président Trump, ce matin, a tweeté en disant que si les relations entre les deux pays sont aussi mauvaises, c'est un peu la faute des États-Unis. Vous êtes d'accord?
Personne n'est d'accord, même pas les membres de son propre parti. C'est simplement une politique pour établir un meilleur rapport avec ses supporters qui croient qu'il est menacé par un groupe de gens, de ce qu'on appelle ici l'establishment, un groupe de gens bien au pouvoir qui s'oppose à toute nouvelle politique, à tout changement.
C'était Lorenzo Morris, il est professeur à Howard University, ici à Washington.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. À très vite, sur le terrain de VOA Afrique.
En RDC, le rapatriement de la dépouille de l'ancien chef de l'opposition, Étienne Tshisekedi à Kinshasa, n'a toujours pas eu lieu. L'ancien leader de l'UDPS est décédé à Bruxelles il y a 16 mois. La date du 30 juin 2018, annoncée par le ministre congolais de l'Intérieur, n'a pas été respectée et les travaux de la commission mise en place pour l'organisation des obsèques sont au point mort. À Kinshasa, le reportage de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire.
Trois mois après la signature par le gouvernement, la famille biologique et le parti politique de feu Étienne Tshisekedi d'un protocole d'accord sur le rapatriement et l'organisation des obsèques du leader de l'opposition décédé à Bruxelles le 1er février 2017, les travaux de la commission mise en place n'avancent pas. Et aucune partie ne sait nous dire clairement pourquoi. Basile Olongo, le vice-ministre en charge de l'Intérieur qui préside la commission, se contente de rassurer que les travaux vont reprendre incessamment.
Il y a eu une commission qui a été mise en place et de cette commission est née des sous-commissions. On devrait passer à l'étape de pouvoir désigner les membres qui devraient figurer dans ces sous-commissions. Ce qui a été fait par toutes les parties, la famille biologique, la famille politique et le membre du gouvernement. Et pour pouvoir avancer, la balle revenait au gouvernement de pouvoir décider sur le moyen, mais il devrait être fait un travail au préalable par la commission technique. Laquelle commission technique devrait réunir toutes les données pour des études au préalable pour savoir qu'est-ce qu'on fait exactement.
À l'Union pour la démocratie et le progrès social, on parle de mauvaise foi. Augustin Kabouya, le secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge de la communication, pointe le régime de Joseph Kabila du doigt pour justifier le blocage.
Voir les gens qui gèrent la République démocratique du Congo combattre même un corps sans vie, sans tenir compte même de la veuve Tshisekedi, maman Marthe, il y a aujourd'hui 17 mois, jour pour jour, depuis que le fait docteur Étienne Tshisekedi nous a quittés. À une certaine époque, maman Marthe avait lancé l'appel aux dirigeants africains d'intervenir dans les dossiers de son fait époux. Aucun chef d'État n'a parlé à Joseph Kabila pour qu'il comprenne quand même que non, nous sommes des Bantous, ça ne peut pas se faire de cette manière-là. Le 26 mai, nous étions au cabinet du vice-premier ministre, le professeur Henri Movasakagne. Depuis ce temps-là, ils ne nous ont jamais contactés. On s'était mis d'accord pour mettre sur pied une commission qui devrait travailler sur le rapatriement. Les jours suivants, nous étions obligés d'amener nos listes de délégués au cabinet. Il y a même les accusés de réception. Et depuis ce temps-là, il n'y a jamais eu de contact autour du dossier.
Dans la rue, quelques Kinois interrogés par VOA Afrique sur la question chargent également le gouvernement et recommandent que tout soit mis en place pour l'organisation des obsèques dignes de l'illustre disparu.
À son rang, nous ne croyons pas que le fait présent Étienne Tshisekedi pouvait traîner au moins 17 mois à l'extérieur. Ça prouvait suffisamment l'irresponsabilité de notre gouvernement. Récemment, il y a eu une commission qui avait été mise sur pied. Vous avez vu les grandes personnalités du gouvernement qui sont allées jusqu'à dire qu'au plus tard, le 30 juin, le corps sera rapatrié. Et puis il sera enterré dans de bonnes conditions. Dans de pays respectueux, ce genre de personnes seraient d'office chassées de ces gouvernements.
Pourquoi ils refusent le rapatriement? Ce sont des questions que nous nous posons jusqu'à aujourd'hui, mais on ne comprend absolument rien.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et nous restons en RDC pour nous diriger à présent à Lubumbashi, dans le sud du pays. À la suite du soulèvement de la population dans les quartiers Katuba, Kisanga et Bakdolit, plusieurs maisons ont été désertées. Le 11 juillet, un pasteur a été assassiné et trois policiers ont été lynchés, dont un major, mort brûlé vif. Les précisions de notre correspondant sur place, Narval Mabila.
Nous sommes au quartier Badolité. Ici, la vie semble s'arrêter alors que le temps est en perpétuel continu. Certains habitants affichent la peur, la colère et la désolation alors qu'ils sont en plein déménagement. La VOA recueille leurs témoignages et cela sous anonymat.
Mais nous sommes en train de regretter et beaucoup on regrette beaucoup parce qu'on ne sait pas quoi on doit faire. Nous avons des familles, nous avons des parents et on entre dans la maison, on est en train de tracasser nos parents, de violer même nos petites sœurs, nos mères. Bon, c'est l'État, hein, mais il faut qu'ils puissent aussi regarder et contrôler ces soldats et mettre aussi des limites.
On n'a pas l'argent, on frappe les gens. Même les papas, les vieux papas là, on les frappe beaucoup et les mamans.
Oui, nous avons peur. On a peur parce qu'on nous tracasse beaucoup et nous sommes obligés de déménager, de quitter, aller ailleurs.
Évidemment, ils entrent à partir des 3 heures. S'ils entrent comme ça, ils peuvent finir même à 5 heures.
Face à cette situation, écoutons Maître Ghislain Calois, président du cadre de concertation de la société civile, au micro de VOA Afrique.
Avec tout ce qui s'est passé, donc, la population estime qu'elle est en insécurité. Et surtout, ce que les autres disent, les représailles de la police suite au décès du major qui a été brûlé vif. Donc ce sont ces raisons-là qui expliquent aujourd'hui que les gens sont en train de vider leur habitation. Mais nous déplorons cette situation.
Pour faire face à cette situation, plus de 200 éléments de la police, la LENI, la Légion nationale d'intervention, réputée à la gâchette facile, sont arrivés en renfort de Kinshasa. Le capitaine Charles Bin Luamba, porte-parole de la police, veut rassurer au micro de VO Afrique.
Si leur conscience est tranquille, pourquoi ils doivent fuir? Ils, peut-être, vous savez, c'est, eux-mêmes savent ce qu'ils ont fait. Du fait qu'ils ont vu la présence massive de la police, ils ont une psychose dans leur tête, en principe. Sinon, on était en train de rechercher des personnes qui auraient cassiné l'officier qui nous déplore. Il n'y a que les mauvais citoyens qui fouillent, mais les bons citoyens, ils sont avec la police.
Le quartier Badolité serait-il devenu une zone de non-droit face aux représailles? Le maire de la ville, Ghislain Loubaba, tente de rassurer aussi.
La population doit se calmer parce que les opérations de la police sont en train de se passer pour rechercher les bandits qui ont opéré la nuit du 10 au 11 dans deux quartiers. Le quartier Badolité et le quartier Kisanga sur la rue 5. Quand la population voit un ennemi, la police, à ce moment-là, ça ne sera pas une bonne chose.
Dans une société louchoise en déchirure, la vengeance semble être la loi. Narval Mabila, Lubumbashi, VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VO Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos. Et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Il existe un lien étroit au Tchad entre la crise économique et les mesures d'austérité et les manifestations et la répression. C'est ce qu'affirme Amnesty International dans un nouveau rapport intitulé « Budget en chute, répression en hausse ». L'ONG affirme qu'il est urgent que des réformes importantes soient engagées avant les élections législatives prévues en novembre. Nicolas Pineau a joint Balkissa Idesido, chercheur sur l'Afrique centrale, à Amnesty International.
Et on s'est rendu compte que depuis mi-2016, toutes les manifestations, les mouvements de grève qui ont eu lieu étaient uniquement liés à l'impact des mesures d'austérité sur les populations au Tchad. L'impact a conduit les gens à manifester leur mécontentement à travers des manifestations qui ont été systématiquement interdites, qui ont été réprimées par les forces de sécurité avec des manifestants arrêtés, certains condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 1 à 4 mois et aussi... Il y a eu énormément de mouvements de grève liés à ces mesures d'austérité-là. Donc vous voyez, c'est un peu comme un effet boule de neige. Les gens ne sont pas contents parce qu'il y a les mesures d'austérité. Ils manifestent leur mécontentement et en réponse, comment réagit les autorités? C'est en réprimant cette expression-là de ce mécontentement.
Comment ont réagi les autorités tchadiennes face à vos conclusions?
Le ministère de la Sécurité publique et de l'administration territoriale et bonne gouvernance a confirmé que... les demandes d'autorisation de manifestations pacifiques sont automatiquement rejetées. Donc les manifestations sont automatiquement interdites, qu'elles soient pacifiques ou pas. Et la raison qu'ils ont évoquée était essentiellement liée à la sécurité. Donc ils nous ont dit que les manifestants ne sont pas, les organisateurs de ces manifestations ne sont pas à même de contrôler les foules. Mais cela, c'est la responsabilité de l'État lorsque, d'après le droit international, les autorités doivent autoriser les gens à manifester pacifiquement. Et la manifestation, le droit de manifester pacifiquement ne peut être réduit que restreint que dans quelques cas vraiment extrêmes de troubles à l'ordre public. Mais il est du devoir de l'État de s'assurer à ce qu'une manifestation ne dégénère pas.
Vous dénoncez aussi cette répression qui ne dit pas son nom, la perturbation des réseaux sociaux.
Moi, j'ai été ici au Tchad en février 2018, en mai, et je suis là encore. Quand on discute avec les gens, c'est confirmé. Pour accéder à WhatsApp, Facebook par exemple, il faut forcément un VPN sur le téléphone. Nous avons demandé aux autorités pourquoi cette restriction. Ils nous ont expliqué que probablement les sociétés de télécommunications avaient un problème technique. Mais lorsque nous avons parlé aux agents des sociétés de télécommunications, eux nous ont expliqué qu'ils ont reçu l'ordre des autorités. Donc nous ne savons pas qui dit la vérité, mais nous demandons aux autorités de lever cette restriction-là, également de permettre l'accès à un certain nombre de blogs et de sites internet qui sont bloqués ici au Tchad.
C'était Balkissa Idesido d'Amnesty International. Elle était jointe à N'Djamena. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde, Joselle Morissin, à la console, Wojtek Journiak, au micro, Clermont Argibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.